Évidemment, quand on est face à ce genre de sujet, on se dit mince, comment on va le commencer? Et une tentation, c'est de prendre une concordance, de secouer très fort et d'essayer d'en sortir un sens. Et une autre méthode, c'est d'essayer de traverser un peu la Bible et de recommencer dans la Genèse. Parce que c'est souvent que quand on a un sujet qui est abordé dans la Genèse, le livre fondateur, eh bien, on a pas mal de renseignements. Et je propose qu'on revienne effectivement aux quelques versets de début de la Genèse, la chapitre 2, déjà verset 5. Genèse 2, 5, Dieu fit la terre et les cieux, tout arbuste des champs avant qu'il fût sur la terre, et tout arbre des champs avant qu'elle crût. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol, pas d'homme pour labourer le sol, même mot en hébreu. Car une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Et verset 15 du chapitre 2, Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder, pour le labourer et pour le garder, même mot en hébreu. Chapitre 3, verset 17 au milieu, Maudit est le sol à cause de toi, tu en mangeras en travaillant péniblement tous les jours de ta vie. Et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Et verset 23, Et l'Éternel Dieu le mit hors du jardin d'Éden pour labourer le sol. D'où il avait été pris, pour labourer le sol, d'où il avait été pris. Il chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden des chérubins et la lame de l'épée qui tournait çà et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et Lucien a lu déjà Caïn, verset 2 du chapitre 4, Caïn labourait la terre. Et il arriva au bout de quelque temps que Caïn apporta du fruit du sol, une offrande à l'Éternel. Et Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande il n'eut pas égard. Et Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché ou le sacrifice pour le péché est couché à la porte. Et son désir sera tourné vers toi et toi tu domineras sur lui. Et Caïn parla à Abel son frère, et il arriva comme ils étaient au champ, que Caïn se leva contre Abel son frère et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, Où est Abel ton frère? Et il dit, Je ne sais. Suis-je moi le gardien de mon frère? Et il dit, Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie du sol à moi. Et maintenant tu es maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu laboureras le sol, il ne te donnera plus sa force. Quand tu laboureras le sol, il ne te donnera plus sa force. Voilà quelques passages fondateurs sur le sujet du laboureur. Alors, bien sûr, dans Vous êtes le labourage de Dieu, c'est nous, la terre, c'est nous dans lesquels Dieu travaille pour porter du fruit. Mais quand on prend le sujet du laboureur, on retourne complètement l'image. Et en cherchant là, qu'est-ce qu'on a? On a finalement une création dont a parlé Lucien tout à l'heure, qui était parfaite. Le travail fait partie de la création. Ceux qui croient qu'au paradis on ne travaillait pas, probablement se trompent. Travailler, il devait labourer, mais il n'y avait pas les épines, il n'y avait pas les ronces, il n'y avait pas la sueur, et il n'y avait probablement pas la pénibilité. Tous ces quatre mots, épines, ronces, sueur, pénible, sont liés à la chute. Et Adam, le voilà chassé du jardin, verset 23 du chapitre 3, et il est ce premier laboureur, ce premier travailleur, ce premier bosseur. Et ça va être dur. Et on verra les qualités du laboureur, ce côté souffrance, patience, le mot patience, mot souffrance est très proche. Mais le voilà. Et il laboure et il est tourné et il retourne le sol d'où tu as été pris. On commence là à entrevoir une image, un homme qui est là, un peu tourné vers soi, là qui va retourner le sol d'où il a été pris. Jusque-là, c'est encore assez neutre. Et puis, on a Caïn qui arrive. Caïn, alors, il est laboureur, son frère est éleveur, pas de problème, on s'est réparti le travail, et les deux viennent avec une offrande. Jusque-là, ça va. Il se trouve que Abel a été agréé, peut-être parce qu'il avait compris qu'on s'approche de Dieu avec un sacrifice, avec une bête offerte, peut-être comme la bête qui avait servi à vêtir ses parents. Quant à Caïn, lui, ben, il apporte son travail, et puis il n'est pas agréé. Alors on va dire, oh là, qu'est-ce que Dieu est dur là dans ce passage. Mais est-ce que ce n'est pas une offre de grâce quand Dieu vient lui dire, mais Caïn ne boude pas, arrête de bouder, n'es pas irrité. Pourquoi es-tu abattu? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Est-ce que ce n'est pas une offre de grâce, ça? Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Puis même si tu ne fais pas bien, eh bien, il y a une solution. Le verset n'est pas facile à comprendre, mais si tu ne fais pas bien, il y a une solution. Voilà le message. Donc l'erreur de Caïn n'est pas tellement d'avoir offert des fruits. L'erreur de Caïn, c'est d'avoir boudé, c'est de s'être entêté et d'être orgueilleux, finalement, de ne pas accepter la remarque ou de ne pas accepter le fait que son offrande n'était pas agréée. Et de ne pas accepter l'offre de grâce qui lui est faite. Et de ne pas accepter la solution qui lui est proposée. Et alors, notre deuxième laboureur, c'est un laboureur, verset 11, « Maudit le sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère, quand tu laboureras le sol, le même sol, il ne te donnera plus sa force. » Voilà notre deuxième laboureur, c'est quelqu'un qui retourne une terre, et qu'est-ce qu'il voit dans cette terre? Le sang de son frère. Voilà le bosseur, voilà le travailleur, mais qui est tourné là, sur cette terre, et qu'est-ce qu'il y a dans la terre? Violence, immoralité, le sang de son frère. Et il peut nous arriver, malheureusement, de ressembler à Caïn, même si on est chrétien. On peut ressembler un peu, quand on tourne et on retourne toujours une terre, marquée de sang, peut-être de nos propres fautes, et on ne s'en sort pas. Et on ne pense plus à la moisson, et on ne pense plus à lever la tête. Et on est là à retourner cette terre. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer quand tu laboureras, verset 12, « Il ne te donnera plus sa force. » Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force à retourner une terre marquée du sang de son frère. Il n'y a pas de force, tourner et toujours retourner. Ce sol dont je viens, il n'y a pas de force si on ne se tourne pas vers la moisson. Pour Adam, il y a de la force. Fondamentalement, et le pain de la terre, c'est bien cette force. Et c'est parce que Caïn a pris le mauvais côté, a pris la mauvaise décision, qu'il a perdu cette force. Et là, quelque part, on pense à la lame de la charrue. Alors, ceux qui aiment les épées, là, on m'a dit de parler aux jeunes. Alors, il y a une épée, c'est l'épée de l'ange qui garde le jardin. La lame de l'épée, elle est là pour garder le jardin. Adam aurait dû cultiver, labourer et garder le jardin. Comme il a été chassé, eh bien, lui, il va labourer avec la lame de la charrue. Ce sont des anges qui vont garder le jardin avec la lame de l'épée. Et cette charrue tranchante, violente, peut nous faire penser à un moment où il faut prendre une décision. Il faut une décision tranchée. Et on voit que Caïn n'a pas pris la bonne orientation. Alors le laboureur, quand il prend une meilleure orientation, bon côté de la charrue, on pourrait dire, ses qualités. Eh bien, le laboureur, c'est quelqu'un qui est dans l'attente, dans la patience. Il y a un verset dans Genèse 24, il se trouve qu'en hébreu, là aussi, au moment où le serviteur attendait l'homme regardait Rebecca avec étonnement, le sans rien dire, ce sans rien dire, en fait, en hébreu, c'est labourer. Il attendait dans le silence. L'attente dans le silence, c'est attendre justement que ce sol donne la force et le fruit. Et la question se pose, quelle orientation prend notre vie? Alors Caïn, lui, son orientation, ça a été finalement d'organiser ensuite la société. Donc on retrouve à la fin du chapitre toute l'organisation de la société avec l'industrie, l'artisanat, les arts, la culture. et l'élevage, ça c'est sa société, c'est son monde. Et la question qui se pose à nous, comment nous allons orienter notre vie? Si nous sommes des laboureurs, si nous sommes des bosseurs, eh bien, quels fruits allons-nous obtenir? Les versets qu'on a cités tout à l'heure, qui laboure sa terre sera rassasié de pain dans les proverbes, à cause de l'hiver, le paresseux ne laboure pas, on retrouve la même pensée, le travail dur, la patience, l'attente et un côté préparatoire. Il y a absolument dans le labour quelque chose de préparatoire. À quoi préparons-nous? À quoi nous préparons-nous? Quelle est la suite? Quels sont les fruits dans notre vie? Alors, un deuxième grand passage sur le sujet du laboureur serait dans Ésaïe 28. Ésaïe 28, dernier paragraphe, verset 24. Ésaïe 28, verset 24. Le laboureur laboure-t-il tout le jour pour semer? Ouvre-t-il et herse-t-il tout le jour son terrain? N'est-ce pas que lorsqu'il en a aplani la surface, il répand la nette et sème le cumin et met le froment par rangée et l'orge au lieu désigné, l'épeautre dans ses limites? Son Dieu le dirige dans son jugement, il l'instruit. Car on ne foule pas la nette avec un traîneau à tranchant et ne fait pas tourner la roue du chariot sur du cumin, mais on bat la nette avec un bâton et le cumin avec une verge. La différence entre le bâton et la verge, c'est quand même des nuances fines, là. Il broie le blé pour le pain parce qu'il ne veut pas le battre toujours. Verset 29, cela aussi vient de l'Éternel des armées. Il se montre merveilleux en conseil et grand en sagesse. Alors, notre vie, on est des laboureurs, on est des bosseurs, on est des travailleurs, on est là, cet homme, on retourne cette terre dans laquelle nous sommes, d'où nous venons, c'est notre vie. Mais on ne va pas rester là tout le temps à labourer. On ne va pas rester là tout le temps sans penser à la suite. Et il semble que ce passage parle de la suite, parle de tous les détails, des semences, des différentes semences, le cumin, la nette, le froment, l'orge, etc. Nous parle de fruits et nous parle aussi d'un Dieu qui, dans les détails de ce quotidien, va l'instruire et va se montrer merveilleux en conseil, avec des nuances quand même, lui dire, pour la nette, il faut un bâton, pour le cumin, il faut une verge, un Dieu qui s'intéresse aux détails de notre quotidien, pour nous aider à ce que ce quotidien soit transformé et que ce quotidien porte du fruit. Alors, voilà deux grands passages dans l'Ancien Testament qui commencent à donner une direction, là, d'interprétation, de se dire, tiens, le laboureur, c'est peut-être bien le travailleur du quotidien dont le quotidien va être transformé pour porter du fruit. Et pour continuer à montrer ça, eh bien, cherchons un autre grand passage clé dans le Nouveau Testament, un qu'on n'a pas cité, parce qu'on essaye de se compléter. Matthieu 11. Alors, Matthieu 11, là, on a besoin, évidemment, de Francis qui connaît la King James par cœur. Ou bien de ceux qui chantent un air du Messie de Handel, qui nous dit quoi? Verset 28. « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. » Vous tous qui labourez. Même mot, cette fois-ci, non pas en hébreu, mais en grec. « Venez à moi, vous tous qui labourez. Vous tous qui vous fatiguez. » Labor, le labeur, d'ailleurs, on le retrouve. « Venez transformer votre quotidien et alors... » Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, qui labourez, qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos, prenez mon joug sur vous. Et le joug nous fait évidemment penser de nouveau aux laboureurs, parce que c'était quand même un des moments où on avait besoin d'un joug quand il faut de la puissance. Alors on a besoin du joug. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est aisé, et mon fardeau est léger. Alors vous êtes des laboureurs, vous êtes des hommes là qui bossaient, qui travaillaient, c'est dur, et vous vous fatiguez. Eh bien, venez à moi. Et l'appel du Seigneur, c'est d'abord un appel de confiance. Venez à moi. La confiance. Et apprenez, et prenez mon joug sur vous. C'est l'engagement, c'est je fais un pas avec lui. Et ensuite, apprenez de moi. Et ce apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, ça c'est cette transformation du quotidien qui va porter du fruit. Mon joug, c'est commandement du maître. Hein, le joug dans la parole, par exemple, acte 15, le concile de Jérusalem, on ne va pas mettre un joug sur les disciples. donc des commandements, ou bien l'affaire de Roboam, fils de Salomon, allège le joug. Donc le joug, c'est le commandement du roi, un petit peu. Hein. Eh bien, c'est ça, c'est prenez mon joug sur vous, prenez l'évangile du royaume, vivez avec mes principes, prenez mon joug sur vous, apprenez de moi. Et cet apprentissage, ben, c'est la contemplation du Seigneur. Je suis débonnaire et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes quand on le contemple dans sa vie, quand on pense à celui qui allait de lieu en lieu faisant le bien. Eh bien, évidemment, notre quotidien va être transformé. Ça rejoint « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. » C'est la transformation de ce quotidien. C'est le « à chaque jour suffit sa peine », tout ça, ça se rejoint. Le laboureur, c'est cet homme qui est dans son travail quotidien et dont le quotidien va être transformé pour porter du fruit. Quand on pense au Seigneur, on pense à lui, on le contemple, on le regarde et on est transformé à sa contemplation. Voilà, donc quand on a vu un peu ce laboureur comme un homme qui transforme son quotidien en un fruit pour le maître, alors on peut aller regarder quelques autres passages du Nouveau Testament. Par exemple, on a Luc 9, où il est parlé de cet homme qui, Luc 9, 61, cet homme qui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi de prendre premièrement congé de ceux qui sont dans ma maison. » Et Jésus lui dit « Nul qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. » Seigneur, moi, premièrement, voilà ce que dit cet homme, et puis il regarde en arrière. Peut-être qu'il regarde si son sillon est droit, en tout cas, c'est pas ça qui... Il faut regarder en avant. Il faut regarder en avant pour porter du fruit. Et puis, on a d'autres versets, hein, Corinthiens 9, « Celui qui laboure doit labourer avec espérance. » Dans 2 Timothée, « Il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. » Donc, on retrouve ce principe des fruits futurs et du travail premièrement, donc le côté patience, le côté préparatoire de l'avenir. Et puis, je propose qu'on regarde 4 femmes laboureuses, quand même. On va regarder les 4 laboureuses du dernier chapitre de l'Épître aux Romains. Des femmes qui ont transformé leur quotidien en des fruits pour le maître. Voilà, 4 laboureuses. Saluez Marie qui a beaucoup labouré pour vous, qui a beaucoup travaillé pour vous, même mot en grec, qui a beaucoup travaillé pour vous. Voilà ce quotidien pour le bien de l'Église. On a Tryphène et Tryphose un petit peu plus loin. Verset 12. Saluez Tryphène et Tryphose, lesquels travaillent dans le Seigneur, encore 2 femmes, et Persis, la bien-aimée, qui a beaucoup labouré, beaucoup travaillé dans le Seigneur. Alors, le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard. C'est Jacques 5, on peut tourner à celui-ci, de cette citation. Jacques 5, verset 7. « Le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison. Vous aussi, usez de patience. » On retrouve cette pensée de la patience, de la souffrance, de l'attente et des fruits. Alors, qui est-ce qui a été ce laboureur aussi qui a transformé son quotidien? Eh bien, évidemment, on pense au Seigneur Jésus lui-même. Et on a une très belle citation en Zacharie 13 sur le Seigneur. On pense au Seigneur, il a été ce laboureur. Qu'est-ce qu'il dit? Zacharie 13, lui aussi, il a transformé son quotidien. Zacharie 13, verset 5, et il dira... « Je ne suis pas prophète, je suis un homme qui laboure la terre, car l'homme m'a acquis comme esclave dès ma jeunesse. » Et la suite du passage nous permet d'interpréter le paragraphe comme une application au Messie. Alors ce Messie qui dit au fond, « Je partage la condition humaine. » Adam, le premier laboureur. Eh bien, je partage la condition humaine. Moi, je ne viens pas comme un prophète, comme quelqu'un de... Je partage la condition humaine, je suis ce laboureur qui laboure la terre, esclave dès ma jeunesse. Il a été le fils du charpentier, Matthieu. Il a été le charpentier, Marc. Il a travaillé. Et puis, au bord du puits de Sichar, Il a été fatigué, labouré, même mot en grec, fatigué du chemin au bord du puits de Sichar. Et puis il a aussi appelé ses disciples dans leur labourage. Il a appelé les quatre pêcheurs quand ils étaient en train de pêcher des poissons. D'ailleurs, il les a même embauchés au plus grand jour de leur carrière, plus grand succès commercial, on va dire, ou plus grand succès de production de poissons, puisqu'ils ont tout abandonné le jour de la pêche miraculeuse en laissant le soin aux serviteurs du papa Zébédée de s'occuper de tout ce qu'ils avaient pris. Il a pris également Lévi, assis au bureau de recette. Lui aussi, il était à son labourage, il était à son travail. Et on transforme ça en des fruits pour le maître. Et puis on termine avec quelqu'un justement qui est au labourage, qui laboure, qui est énergique et dont la vie va être transformée. Et c'est l'exemple bien sûr d'Élisée qu'on m'a déjà cité plein de fois dans le champ, puisque tout le monde était déçu quand même de ne voir qu'un seul cheval. Hein. On s'attendait à voir 12 paires de bœufs. Alors, donc c'est 1 Roi 19, verset 19. 1 Roi 19, verset 19. Élie s'en alla et trouva Élisée, fils de Shaphat, et il labourait avec 12 paires de bœufs devant lui. Et lui était avec la 12e. Et Élie passa vers lui et jeta son manteau sur lui, et il abandonna les bœufs et courut après Élie et dit, que je baise, je te prie, mon père et ma mère, et je m'en irai après toi. Et il lui dit, va, retourne, que t'ai-je fait? Et s'en retourna d'auprès de lui, prit la paire de bœufs et en fit un sacrifice. Et avec le harnachement des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna au peuple, et ils mangèrent. Et il se leva et s'en alla après Élie, et il le servait. Alors Élie, là, sort de sa dépression, hein, sort de son découragement, et Dieu l'a restauré, Dieu l'a réchauffé, et lui fait préparer l'avenir. Et en préparant l'avenir, eh bien, il va nommer son successeur. Alors Élie passe, et voilà un homme énergique, voilà un homme dans son labourage, dans son travail, dans son quotidien, actif, énergique, 12 paires de bœufs. Alors on ne sait pas exactement si elles étaient toutes attelées ensemble, ou peut-être qu'il y avait d'autres serviteurs avec lui, et lui il était avec la 12e paire, on ne sait pas bien, mais enfin en tout cas, on voit une énergie, on voit une puissance, on voit quelqu'un qui est engagé à son œuvre, mais qui est disponible. Et on repense à notre première interprétation de cet homme-là qui laboure la terre d'où il a été, et qui est en attente, peut-être en recherche, et un jour il y a une décision à prendre. Eh bien, Élisée, c'est cet exemple, cette illustration de la décision. De la décision comme la lame de la charrue. Coupe! Hein, on a parlé des couteaux tout à l'heure, j'ai entendu ce mot tout à l'heure dans la présentation. Alors, il prend cette décision de s'attacher à Élie, il propose de le suivre, d'aller avec lui. L'autre le met déjà à l'épreuve. Non, 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 mais que t'ai-je fait? Et il s'attache, il s'accroche, il offre une grande fête aux gens du peuple et à sa famille. Donc, il est généreux. Il brûle au passage le harnachement des bœufs, comme s'il tournait une page quand même dans sa vie. Hein. C'est comme si ben, je ne retournerai plus jamais à ma charrue, en tout cas pas à celle-là. Il tourne une page. Il a pris une décision. Et cette décision, ça va être de s'attacher, de suivre son maître. Et finalement, il va passer de l'activité énergique de labourer avec 12 paires de bœufs. Et que va-t-il faire? Eh bien, il va commencer par verser l'eau sur les mains d'Élie. Il va verser l'eau sur les mains d'Élie. Il a changé de labourage, celui-là. Hein. Il a changé de labourage, mais de nouveau, dans ce quotidien, dans ce verser l'eau sur les mains d'Élie, eh bien, il va porter du fruit, il va être à l'école. Et Élie, qui ressemble à Jean le Baptiseur, dans un ministère de jugement, ou plutôt un petit peu frappant, on va dire, et aussi un ministère où on ramène le cœur du peuple à Dieu, il est aussi vêtu de poils de chameau. Voilà, Élie ressemble à Jean le Baptiseur, et bien sûr, Élisée ressemble au Seigneur dans un ministère de grâce, un ministère de nourriture du peuple, un ministère avec une résurrection, deux résurrections, ministère de vie. Alors on pense à Élisée qui a été transformé là, qui s'est engagé dans ce service, qui lui aussi va avoir un quotidien transformé et va porter beaucoup de fruits. Et son attachement d'ailleurs à son maître va être mis à l'épreuve. Va être mis à l'épreuve. Là, il s'est proposé de s'attacher à son maître. Il va être mis à l'épreuve. Quand son maître lui dira, à la fin, quand le maître va partir dans les chevaux de feu et le chariot de feu, le maître va dire, eh bien, je m'en vais jusqu'à Bethel, je m'en vais jusqu'à Gilga, je m'en vais jusqu'à Bethel, je m'en vais jusqu'à Jéricho, je m'en vais au-delà du Jourdain. Élie dit à Élisée, non, non, mais tu restes là, je m'en vais. Et Élisée, non, 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 moi je ne te laisserai pas. L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas. C'est comme Jacob, quand il ne veut pas abandonner l'ange de l'Éternel, après avoir la hanche luxée, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. C'est comme les disciples d'Emmaüs, quand ils veulent que leur maître reste avec eux. Eh bien, cet attachement d'Élisée va être tellement fort qu'il va effectivement pas le laisser, il va le suivre, il va pas le laisser à la fin, et c'est parce qu'il est attaché à lui, justement, parce qu'il ne l'a pas laissé, qu'il va avoir une double mesure de l'esprit, puisqu'Élie lui dit, c'est si tu me vois au moment où je m'en vais, que tu auras cette double mesure. Alors voyons, soyons de ces laboureurs qui transforment le quotidien en des fruits pour le maître, soyons actifs comme Élisée, prêts peut-être à changer d'orientation, prêts en tout cas à prendre une décision, et puis un attachement pour le maître, le suivre, un attachement pour le maître, il versait l'eau sur les mains d'Élie, et puis en fait, peu à peu, sa vie s'est développée et il a porté du fruit. Voilà, je ne recite pas le verset du psaume 129 qui est très beau. Des laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé des longs sillons. Ce sont des hommes qui, comme Caïn, qui labouraient cette terre marquée du sang de son frère. Eh bien, ce sont des hommes qui ont mis leur énergie, eux, à faire souffrir le Seigneur.